6h30 à Antananarivo, 4h30 à Kinshasa. Merci d'écouter RFI.
Arthur Ponchelet.
Dimanche 15 juin, bonjour et bienvenue sur RFI. C'est Afrique Matin qui commence à la une. Nouveaux échanges de missiles entre l'Iran et Israël cette nuit. Hier soir, l'État hébreu a visé une raffinerie de pétrole de Téhéran. Des missiles iraniens ont, eux, touché plusieurs villes israéliennes. Il y a au moins 7 morts depuis hier soir. On y revient longuement dans le journal international dans 30 minutes. C'est une première depuis le début de la médiation américaine dans la guerre en RDC. Les experts du Rwanda et de Kinshasa sont réunis autour d'une même table, suite des négociations de paix à Washington. Dans ce journal aussi, l'Afrique du Sud veut rapatrier plus de dépouilles des militants anti-apartheid décédés à l'étranger. Madagascar mise sur les hôtels de luxe pour booster le tourisme. Rencontre avec une étoile montante du foot congolais, l'attaquant du FC Tanganyika, Jean-Benoît Toukoumbané. Et puis, ils sont réunis par leur passion des mangas et des animés, des centaines de fans de culture japonaise, réunis par un festival au Sénégal ce week-end. Aucun accord de paix ne sera signé ce dimanche entre la RDC et le Rwanda. Voilà ce que dit le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Ndoungiré, sur les réseaux sociaux. Alors que les négociations se poursuivent à Washington, les Américains espéraient un accord à la mi-juin désormais. C'est la fin juillet qui est avancée pour une éventuelle signature autour de Donald Trump. En revanche, Esdras Dikoumana, pour la première fois cette semaine, les États-Unis ont réussi à réunir autour d'une même table les délégués congolais et rwandais.
Plus de discussions par facilitateur américain interposé ou par échange de messages WhatsApp. Depuis 2-3 jours, les experts congolais et rwandais sont face à face et discutent directement entre eux à Washington. Sur la table de négociation, un projet d'accord dont on vous a parlé en début de semaine, il s'agit d'un second draft proposé par les facilitateurs américains qui se sont basés sur les premières remontées en provenance des deux parties. Dans un premier temps, les États-Unis pensaient arriver à un accord vers la mi-juin. Mais je cite, c'était l'objectif initial, il a fallu l'adapter à la réalité des négociations, a réagi hier sur X, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoungiré. Les experts des deux côtés sont désormais entrés dans le vif du sujet avec, pour objectif, je cite encore le MAE rwandais, de négocier un accord de paix global réaliste et mutuellement bénéfique, dit-il sans plus de précision. Les chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise devraient se retrouver toujours à Washington une fois un préaccord trouvé entre les experts, avant un sommet qui réunira les présidents congolais et rwandais autour de Donald Trump. Pas de calendrier rigoureux à suivre pour le moment donc, mais les Américains veulent aller vite, très vite. Ils espèrent y arriver au cours du mois de juillet, explique une source à Washington.
Esdras Dikoumana, la RDC, c'est aussi ce lourd bilan, au moins 19 morts dans des inondations à Kinshasa, dont la plupart dans la commune de Ngaliema. Après une nuit de pluie torrentielle, certains quartiers se sont réveillés les pieds dans l'eau hier matin, une eau boueuse et qui a fait d'importants dégâts matériels selon les autorités locales. Plus tôt cette semaine, c'est l'Afrique du Sud qui était victime d'inondations. Le bilan s'est encore alourdi hier. 86 morts dans la province du Cap-Oriental, dans le sud du pays. Le président Ramaphosa s'est rendu sur place vendredi, pointant du doigt le réchauffement climatique. L'Afrique du Sud qui continue un minutieux travail d'enquête à la recherche des militants anti-apartheid exilés à l'étranger. Que sont-ils devenus face à la répression dans les années 60? Des milliers d'entre eux avaient quitté le pays pour ne jamais y revenir. Certains sont morts dans leur pays d'accueil et ils sont enterrés parfois anonymement. Pretoria poursuit donc ses opérations pour tenter de les retrouver. En septembre, 42 dépouilles avaient ainsi été rapatriées. Et Valentin Hugues, le ministère des Arts et de la Culture, lance une deuxième phase de recherche.
Angola, Lesotho, Zimbabwe et Zambie, voici la liste des pays où les recherches auront lieu. L'objectif, cartographier les cimetières, rencontrer des témoins, se plonger dans les archives pour retrouver la trace de ces militants qui ont lutté contre le régime d'apartheid depuis l'extérieur et qui ont été enterrés dans leur pays d'accueil. Ces hommes et femmes engagés avaient fui l'Afrique du Sud pour éviter la prison ou encore la mort. Beaucoup traversent alors les frontières terrestres pour se réfugier dans les pays voisins. Un exil pour se protéger, mais aussi pour continuer la lutte alors que les principales formations anti-apartheid sont déclarées illégales en Afrique du Sud dans les années 60. Un exil aussi pour faire pression sur la scène internationale et parfois pour organiser la résistance. La branche armée de l'ANC, le MK, avait par exemple ses bases en Angola, en Tanzanie et au Zimbabwe. Le ministre des Arts et de la Culture sûr Gaëtan McKenzie, appelle les familles à se manifester et à donner n'importe quel détail, même minime, sur un proche mort en exil. Une opération de rapatriement chère à l'Afrique du Sud pour la justice et la dignité. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Il réclame sa libération au Tchad un mois jour pour jour après l'arrestation de Succès Masra. Les soutiens de l'opposant et ancien Premier ministre se sont rassemblés hier. Le chef des transformateurs a été arrêté le 16 mai dernier pour incitation à la haine. Il est accusé d'avoir incité au conflit dans le sud du pays. Une arrestation politique selon ses proches. On entendra l'un d'entre eux dans le prochain journal. Rassemblement aussi en Côte d'Ivoire hier. Plusieurs milliers de sympathisants du PDCI-RDA ont manifesté pour réclamer la réintégration de leur leader Tidjane Thiam sur la liste électorale. Il en a été radié suite à une décision de justice. Cette semaine, dans une conférence de presse, le parti au pouvoir a pointé du doigt des manœuvres dilatoires de l'opposition. Elle ne veut pas aller aux élections, dit le RHDP. Il est 3h35 en temps universel. C'est le plus grand salon du tourisme de l'océan Indien et c'est à Madagascar qu'il a lieu. Jusqu'à ce soir, Antananarivo accueille les acteurs du secteur venus de toute la région et pour l'occasion, la grande île rappelle son ambition, accueillir 1 million de touristes en 2028, soit plus de 700 000 de plus que l'an dernier. Et pour y arriver, Guillaume Fabry, le président malgache mise sur le tourisme de luxe.
5 hôtels 5 étoiles sortiront de terre dans les prochains mois, a promis jeudi le président Andjra Zoël. Une annonce critiquée par de nombreux malgaches sur les réseaux sociaux, jugeant que ces projets ne sont pas prioritaires à l'heure où les délestages se multiplient dans la capitale. Mais cette stratégie est assumée par Sandra Afik Ramaroula, directrice générale du ministère du Tourisme.
On veut avoir beaucoup plus de touristes qui dépensent beaucoup plus d'argent, qui a plus d'impact pour la population. Il faut qu'on ait beaucoup plus de chambres, notamment dans les 3, 4 et 5 étoiles. Surtout dans les provinces. On a des projets comme les zones écotouristiques où on souhaiterait mettre des écolodges de luxe dans les différents parcs nationaux.
Toudzlita Razafimaev, président de la Confédération du tourisme de Madagascar, principal groupement professionnel du secteur, salue l'augmentation du nombre de vols intérieurs depuis un an, mais pointe d'autres difficultés.
Toutes les régions de Madagascar ne sont pas desservies. Il faut quand même voir aussi le déplacement et la connectivité terrestre et voire maritime. Et nous, on martèle vraiment la nécessité de voir tout ceci en priorité.
À ces défis s'ajoutent aussi des résistances locales. Dans le nord-ouest du pays, deux projets d'hôtels sur les îles de Nosy Sakati et Nosy Mitsu se heurtent à l'opposition d'habitants qui craignent de perdre leurs terres. Le gouvernement assure lui que cela créera des emplois pour les communautés locales. Guillaume Fabry, Antananarivo, RFI.
Match nul en ouverture de la Coupe du Monde des clubs, 0-0 entre l'Al Ahly du Caire et l'Inter de Miami dans un Hard Rock Stadium finalement plein à craquer. Ce soir, le PSG affronte l'Atlético Madrid. Ce sera à partir de 19h, temps universel. On y revient dans le journal des sports avec Salio Diouf dans tout juste une heure. En attendant, on se penche sur le championnat congolais et sur une étoile montante du foot, Jean-Benoît Toukoumbané. Le joueur du FC Tanganyika est actuellement le troisième meilleur buteur du championnat. Olga Massangou, le jeune attaquant, se rêve déjà avec le maillot de l'équipe nationale sur les épaules.
Il est devenu le centre d'attraction à chaque fois que son équipe joue. Pourtant, le FC Tanganyika, modeste équipe de la ville de Kalemie, peine à se faire une place pour sa première saison à l'élite face aux habituels grands noms du football congolais. Âgé de 19 ans, Jean-Benoît Toukoumbané a permis à son équipe de s'imposer plusieurs fois. Quand il n'est pas buteur, comme lors de l'historique victoire 2-1 à Kamalondo contre le TP Mazembe, il est passeur décisif. Il rêve déjà de l'équipe nationale.
C'est créant une part à tout travail.
Je n'ai pas d'autre secret que le travail et la discipline aux entraînements comme en match. Je me fixe à chaque fois l'objectif de m'améliorer, de faire mieux. En termes d'ambition, j'ai toujours rêvé de porter les couleurs de l'équipe nationale de la RDC, mon pays. Jouer le CHAN, la CAN et même la Coupe du Monde.
Quoique élu 4 fois homme du match depuis le début des playoffs et 9 fois depuis le début de la saison, Toukoumbané peut encore mieux faire, selon son entraîneur. Saber Ben Djabria.
C'est un joueur qui est exceptionnel, qui est en train de progresser. J'espère qu'il sera toujours motivé, vous savez, parce que la motivation est principale pour un joueur. C'est pour ça que je voulais que le championnat continue. Même à l'entraînement, c'est un joueur qui se donne à fond, vous le voyez même dans les matchs.
Avec 10 buts marqués, il est le meilleur buteur du FC Tanganyika et veut finir au sommet du classement des meilleurs buteurs du championnat. Olga Masangu Kinshasa, RFI.
Et aujourd'hui, Tanganyika joue le FC Les Aigles au stade des Martyrs pour le compte de la phase retour des playoffs. L'actualité sportive, c'est aussi du basket et la victoire de Al Ahly Tripoli en finale de la Basketball Africa League. Les Libyens ont battu le Petro de Luanda avec la manière 88-67. On termine ce journal à Dakar, la capitale sénégalaise où des centaines de jeunes en cosplay déguisés en personnages d'animés japonais se réunissent tout le week-end. C'est le festival Matsuri, rendez-vous dédié à la culture japonaise, calligraphie, manga, jeux vidéo ou encore gastronomie. Les fans sont de plus en plus nombreux à baigner dans cet univers. Reportage à Dakar, Juliette Dubois.
Awa et Mathilde sont devenues amies grâce à leur passion du Japon.
On était dans la même classe, mais genre on se parlait pas. Un jour, j'ai su qu'elle regardait les animés comme moi. Depuis on s'est liés d'amitié.
Voilà. C'est ensemble que ces deux étudiantes en histoire sont venues au festival Matsuri. Elles ont dévalisé le stand de nourriture japonaise.
On a acheté des mochi, des nouilles, des baguettes aussi. Bon, c'est l'événement de l'année. Hein.
Au festival, chacun s'habille comme il le souhaite. Obi est venu en tenue de boxeur. Ce membre du club japonais de Dakar interprète Hajime no Ippo, un personnage de dessin animé. Obi se réjouit que la culture pop asiatique se démocratise au Sénégal.
Avant, c'était un peu minimisé, parce que comme on dit au Sénégal, Yefou Mickey en Wolof, c'est genre pour dire les affaires des Mickey, de Disney, là, c'est pas sérieux, c'est des enfants. Les parents, les adultes disaient que ouais, tu perds ta vie, tu vas jamais rien faire avec. Mais aujourd'hui, je suis content que nous avons pu prouver le contraire, parce que cette passion m'a donné le talent d'apprendre le japonais, m'a donné la chance de rencontrer de merveilleuses personnes à l'ambassade du Japon.
Aujourd'hui, Obi donne même des cours de japonais. Un peu plus loin, Ami Diak crée des mangas sénégalais avec les Diata Twins. Les codes de dessin et des histoires romantiques sont là, mais adaptés à un public local.
J'essaie d'intégrer notre quotidien, notre vie quotidien ici au Sénégal. Par exemple, il y a des histoires sur la Tabaski, Tamkharit, les Nawetan, etc. Et donc, au moins, les Sénégalais auront leur propre histoire à eux-mêmes.
Chaque année, les festivals de pop culture japonaise comme Matsuri attirent des centaines de Sénégalais venus de tout le pays. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le festival Matsuri continue ce dimanche toute la journée au monument de la Renaissance africaine à Dakar où il est tout juste 3h42.
Afrique Matin sur RFI. Arthur Ponchelet.
5h42 à Paris, voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, deux entrepreneurs mauriciens et leur start-up pour mieux apprendre à se déplacer à la une des têtes d'affiche de Denis Zépoté. Entre attaque informatique et opération d'ingérence, on s'intéresse aux stratégies d'influence russe dans notre livre international. Et puis elles sont devenues l'un des symboles du mouvement féministe en France. Les sorcières n'ont pas toujours été synonymes d'indépendance et de libération. On le verra dans notre reportage culture. Mais d'abord, on s'est posé la question toute la semaine à Nice, dans le sud de la France. Comment mieux protéger l'océan? De nombreux acteurs de la mer ont fait le déplacement à la conférence des Nations Unies sur l'océan pour raconter leur combat. Ce matin, on vous emmène à la rencontre des pêcheurs des Comores, raréfaction des poissons, concurrence des grands chalutiers ou encore restrictions locales. La pêche est de plus en plus difficile à Moroni. Reportage au Café du Corps, Abdallah Mzembaba.
Près du port de Moroni, entre deux parties de dominos, les pêcheurs discutent des métiers qu'ils aiment, mais qui ne les fait plus vraiment vivre. Commandant Loketo, pêcheur depuis 1999.
Avant, il y avait moins de bateaux, plus d'opportunités, donc plus de poissons. Depuis 2010, les choses ont changé. Il y a de gros bateaux de pêche étrangers qui opèrent dans nos eaux et prélèvent énormément de poissons. Parfois, ils nous menacent avec des armes. On est obligé de fuir. Parfois, ils nous donnent des poissons.
Ces dernières semaines, certains notent une amélioration. Les grands navires se font plus rares et les prises augmentent. Commandant Loketo.
Dieu merci, les poissons sont revenus. Vous le voyez bien sur les prix. La bonite est entre 2 euros et 2,50 euros.
Mais il y a d'autres batailles pour les pêcheurs. Ibrahim Hassani vend son poisson près du Café du Port, un point de vente situé en bordure de route. Les clients y stationnent souvent leurs véhicules, ce qui encombre la circulation et agace la mairie.
On nous empêche de vendre ici. C'est une décision de la mairie. J'ai 750 000 francs de poissons bloqués au congélateur que je n'arrive pas à écouler.
Il regrette surtout d'avoir dû renoncer à la fraîcheur, son meilleur argument face aux clients.
Ici, il n'y a que du poisson frais. C'est maintenant que la situation a changé, que nous avons des poissons congelés. Nous n'arrivons pas à les écouler, mais en période normale, nous n'avons pas de poissons congelés.
La pression n'est pas que locale. Les pêcheurs dénoncent aussi un manque de soutien face aux enjeux géopolitiques de la mer. Andim Abdallah, pêcheur depuis 2006.
Nous avons une vie difficile. On souffre autant en allant à la pêche qu'en en revenant. On souffre quand on veut vendre. Et certaines autorités viennent ici, pas pour nous aider, mais pour nous nuire et nous compliquer encore plus la vie.
Rester à flot, malgré les vagues, les décisions politiques et les poissons qui se font rares. Pour ces pêcheurs, l'espoir, lui, est toujours bien ancré. Abdelham Zembaba Mourouni, RFI.
Reportage à retrouver aussi sur notre site rfi.fr. Dimanche 15 juin, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité internationale. La guerre continue entre Israël et l'Iran. 48 heures après les attaques israéliennes massives contre des sites nucléaires et militaires iraniens, l'Iran a tiré hier soir et ce matin deux salves de missiles sur Israël. Il y a au moins 7 morts et plus de 130 blessés. Israël qui continue de bombarder l'Iran et notamment Téhéran. Hier soir, la raffinerie de la capitale iranienne était en feu. Israël dit avoir aussi visé des sites iraniens liés au projet d'armes nucléaires. Aux États-Unis, un samedi de défilé militaire dans la capitale fédérale, pendant que les opposants au président Trump manifestaient dans de multiples villes. Il y a eu un blessé grave à Salt Lake City dans l'Utah, dans l'ouest du pays. Dans ce contexte politique particulièrement tendu, une élue démocrate a été assassinée chez elle avec son mari par un tireur qui est en fuite. Une liste de 70 noms d'élus à abattre a été retrouvée dans sa voiture. L'actualité en France, marquée par le retrait de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy. L'ancien président se voit aussi retiré de l'Ordre national du mérite. Double décision inédite, inscrite dans le journal officiel daté de ce dimanche. Décision attendue suite à la condamnation définitive de l'ancien président en décembre dernier dans une affaire de trafic d'influence. Le retrait de ces deux récompenses républicaines est automatique. Nicolas Sarkozy devient donc le deuxième ancien chef d'État français privé de la Légion d'honneur après le maréchal Pétain en 1945. À 3h47 en temps universel. Comme tous les dimanches matin, on retrouve les têtes d'affiche de Denise Epoté. Zoom sur deux entrepreneurs africains aux idées innovantes. Denise Epoté est avec Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Vos deux têtes d'affiche cette semaine sont originaires de l'île Maurice. Thibaut Val a travaillé dans les assurances et dans l'hôtellerie avant de se lancer dans l'entrepreneuriat à la faveur de la crise sanitaire. Son application Alapran est destinée à faire le pont entre le créole et l'anglais afin de faciliter l'apprentissage.
En créole, Alapran signifie « va apprendre ». Et pour Thibaut Val, le choix du nom n'est pas fortuit car il souligne la volonté de rendre l'apprentissage accessible et motivant pour tous. Pendant la crise sanitaire, faute d'outils numériques adaptés à leur réalité, de nombreux élèves ont du mal à réviser leurs cours. Et cela a mis en lumière les problèmes structurels du système éducatif mauricien. Hérité de la colonisation, il privilégie l'anglais alors qu'au quotidien, la majorité des élèves ne parlent pas cette langue, mais le créole. Bien que l'éducation soit gratuite à Maurice, de nombreux élèves sont laissés de côté car la langue d'enseignement n'est pas leur langue maternelle. Et les chiffres sont alarmants. Sur 10 élèves qui débutent leur parcours scolaire, seuls 2 terminent le cycle secondaire. L'UNESCO souligne par ailleurs que l'éducation dans la langue maternelle favorise la compréhension et l'engagement tout en renforçant l'identité culturelle des apprenants. Le choix d'un contenu bilingue, bien que coûteux à produire, est une nécessité pour éviter que le système éducatif n'accentue les inégalités socio-économiques. Alapran propose des contenus pédagogiques en créole et en anglais, des vidéos interactives ainsi que des quiz d'évaluation. Rendre l'éducation plus inclusive en prenant en compte le contexte culturel et linguistique des apprenants, c'est l'objectif que s'est fixé Thibaut Val, qui travaille sur une adaptation de l'application pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis. Lors de la cérémonie des 500 talents mauricieux, Alapran a remporté le prix d'excellence.
Denise, votre seconde tête d'affiche est donc également originaire de l'île Maurice. Kochik Ratod, après plusieurs années dans le secteur du tourisme, a lui lancé Yugo, une application pour structurer et moderniser le secteur du transport.
Offrir un service fiable, sécurisé et accessible via une application, tout en professionnalisant le secteur du taxi, qui jusque-là était informel, c'est ce qui a poussé Kaushik Rathod à lancer Yougo. Avant le lancement de l'application, en 2018, il n'existait aucune plateforme de recherche de véhicules. Il était également impossible de commander un véhicule pour un usage immédiat. L'application permet de commander ou de réserver en temps réel un taxi. Une estimation tarifaire est proposée au client qui suit en direct l'arrivée du chauffeur. Le paiement se fait en espèces ou via paiement électronique. La flotte est uniquement composée de taxis légalement enregistrés, ce qui garantit la qualité et la fiabilité du service proposé. L'application est disponible sur l'ensemble de l'île. Elle est utilisée par les nationaux et les touristes, soit 40 000 utilisateurs, en dehors des pics de saison touristique. Dans un secteur du transport digital en pleine évolution, Yougo a bénéficié du soutien du fonds d'investissement Afrilabs.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté, retrouvez quand vous le voulez sur RFI.fr. Et nous, Denise, on se dit à dimanche prochain.
Et nous, on vous dit à tout à l'heure, Nicolas Brousse, pour Afrique Midi, midi 30, temps universel. Il y a les drones, les bombes et les missiles, il y a les attaques informatiques et il y a aussi les espions du FSB et leurs méthodes controversées. On s'intéresse ce matin aux stratégies d'influence de la Russie. Elles sont particulièrement visibles depuis le début de la guerre en Ukraine, mais cela fait plus d'un siècle que Moscou mène des opérations d'ingérence à l'étranger. Ces opérations, Christine Dugoin-Clément en parle dans son livre « Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos ». C'est notre livre international du jour avec Romain Lemaresquier.
Bonjour Madame Dugoin-Clément.
Bonjour.
Votre livre est paru tout récemment alors que la guerre en Ukraine et la guerre hybride menée par la Russie a commencé il y a maintenant quelques années. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre maintenant? Est-ce que c'est pour lancer un avertissement?
C'est non seulement pour faire un petit peu un point d'étape parce qu'on a eu des évolutions, la complexité et l'hybridité de la conflictualité. On la voit se développer avec une première grande étape en 2014 avec le début de la guerre dans le Donbass et puis avec l'invasion massive de l'Ukraine entamée par la Russie, eh bien on a observé une véritable montée en gamme avec une pluralité de méthodes, une pluralité de cibles et d'objectifs. Et il me semblait intéressant de faire un petit peu un point sur les évolutions que l'on avait pu observer en sachant que, loin de moi, l'idée de se dire que cet ouvrage est un aboutissement, c'est clairement une étape sur un sujet qui est éminemment dynamique et qui risque encore de connaître de nouvelles évolutions dont nous serons potentiellement les cibles et dont on pourra faire les frais.
Alors dans cet ouvrage, vous nous expliquez que l'ingérence russe ne date pas de l'invasion de l'Ukraine. De quand date cette nouvelle stratégie russe?
On pourrait remonter jusque dans les années 20, un petit peu avant, où on a tout un travail qui se fait, qui s'appelle pas forcément, on parle pas de guerre hybride si vous voulez à cette époque-là, mais on va vous parler de l'intérêt de passer derrière les lignes pour aller influencer sur la psychologie des populations par exemple. Et puis ce que l'on voit, c'est en 2013-2015, de nouvelles approches qui se déclinent et on va tester sur le terrain ukrainien. On va avoir énormément d'opérations informationnelles qui vont être menées et en Ukraine et qui vont déjà viser les populations occidentales. Ça permet de tester des méthodes, de tester des process et puis d'essayer de les améliorer et on va avoir bien cette prise en compte dans les approches doctrinaires. En 2022, on a l'invasion massive. Là aussi, on va avoir des leçons qui vont être tirées, notamment des échecs qu'on a pu voir dans les premiers mois de l'invasion, qui se passe pas comme le Kremlin pouvait l'escompter, parce que on peut supposer qu'ils espéraient en tout cas une avancée extrêmement rapide qui va donner différents éléments, comme par exemple la réorganisation du renseignement militaire. Et puis, sur le terrain, on observe un déploiement qui se fait en ciblant de manière différente les populations, selon que on va cibler des populations occidentales, des populations africaines, de l'Est ou de l'Ouest.
Quels sont les outils employés, déployés par la Russie pour mener à bien cette stratégie?
Ce qui est intéressant, c'est que la Russie, elle va mêler des outils très à l'ancienne, si je peux dire, mais elle va s'adapter, elle va inclure les opportunités qui sont offertes par la technologie dans ces pratiques-là. Ça veut dire qu'on a une prise en compte des opportunités qui sont offertes par les réseaux sociaux sur la façon dont les algorithmes travaillent. On va mettre à profit ce que l'IA peut permettre de faire, que ce soit sur de la production de ce qu'on appelle des deepfakes, des contenus synthétiques hyper réalistes, on parle aussi d'hypertrucage, et puis on va avoir deux autres usages, utiliser de l'IA générative pour créer du texte, et puis créer des sites qui vont être totalement générés par intelligence artificielle. Et ça, ça permet d'avoir une rapidité de production bien plus élevée que ce que l'on avait préalablement, à un coût qui reste relativement modique, puisque au lieu d'avoir des vrais humains qui vont interagir et écrire des articles, eh bien, on va pouvoir les générer par intelligence artificielle.
Comment les pays victimes de cette nouvelle forme d'ingérence peuvent-ils lutter contre cette stratégie mise en place par la Russie ?
La première chose, c'est la prise de conscience. Après, c'est ce que l'on appelle une forme d'hygiène numérique pour essayer d'avoir quelques réflexes de base, même si c'est pas forcément suffisant. Et on va avoir différents travaux. Il y a un travail qui va se faire sur les narratifs qui sont diffusés avec de la vérification de faits. Et puis, on a une autre approche qui va être technique. Et c'est par exemple ce que fait l'agence Viginum, c'est-à-dire de regarder à quel moment on a des éléments techniques qui mettent en évidence une manipulation intentionnelle d'un contenu pour, par exemple, le rendre viral ou faire croire qu'il est beaucoup plus populaire qu'il ne l'est et remonter potentiellement jusqu'à des opérateurs par des éléments techniques, ce qui permet de contourner un argument que le Kremlin utilise beaucoup, à savoir qu'il sert aux Occidentaux et aux démocraties. Vous vous dites démocratique et vous ne respectez pas la liberté d'expression. Donc on est vraiment sur la prise de conscience, de l'éducation, du suivi vraiment des narratifs avec cette prise de recul et un travail technique, ce qui oblige à mobiliser un spectre très large d'acteurs, aussi bien institutionnels que civils.
Eh bien, Madame Christine Dugoin-Clément, merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Et le livre de Christine Dugoin-Clément, Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos, est à retrouver en librairie aux éditions de la Presse universitaire de France. Bientôt 4 heures en temps universel. Avant de retrouver Fabrice Légrier pour le journal, on fait un détour par Pont-Aven, en Bretagne, dans l'ouest de la France. On part à la rencontre des sorcières, ou plutôt de leur représentation dans l'art. Plus de 200 œuvres sont exposées au musée de Pont-Aven et explorent l'évolution de l'image de la sorcière au 19e siècle, de la figure effrayante à la femme fatale. C'est notre reportage culture avec Carmen Lunzmann.
Entourées de serpents, de chauves-souris et de chats noirs, ces sorcières au nez crochu et au chapeau pointu hantent notre imaginaire depuis le Moyen-Âge. Sophie Kervran, conservatrice en chef du musée de Pont-Aven, souhaite mettre en lumière la femme derrière cette allégorie du mal, de la mort, du vice et de la vieillesse.
Notre exposition, elle se centre vraiment sur la vision qu'ont les artistes du 19e siècle sur cette figure qui a connu un renversement notamment avec la parution de l'ouvrage de Jules Michelet qui s'intitule « La sorcière » en 1862. Et qui, pour une fois, montre une sorcière jeune, positive, en osmose avec les éléments naturels.
Dans la campagne, on n'est jamais savant sans être quelque part sorcier, disait George Sand, romancière éclairée et femme farouchement indépendante, évoquant ainsi les guérisseuses du village et leur connaissance de la médecine alternative. Mais l'exposition débute bien avant.
Quand le visiteur entre dans notre exposition, il est confronté à un tableau assez inquiétant, Victime de Gustave Moreau, où on voit une femme avec un poignard dans le flanc et qui nous montre, nous, d'un signe accusateur. Et on a mis en parallèle le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, qui a été écrit en 1486 par deux moines dominicains, des inquisiteurs, qui est en fait un traité, un véritable best-seller qui indique comment chasser la sorcière. La chasse aux sorcières a eu lieu du 15e au 17e siècle. Comment les torturer pour leur extorquer des aveux.
On estime entre 60 000 et 90 000 personnes pendues ou brûlées pour sorcières dont deux tiers de femmes, victimes de superstitions, de règlements de comptes, de misogynie, rappelle la directrice de ce musée en Bretagne, qui fait également un clin d'œil à son propre patrimoine.
C'est un tableau d'Edgar Maxence qui s'appelle La Légende Bretonne. Et là, pas d'attribut de la sorcière, pas de balai, pas de chapeau pointu, même pas de chat noir, mais cette femme qu'on reconnaît sorcière parce qu'elle a cette chevelure rousse, symbolique du diable. Sous sa houppelande d'hermine, on aperçoit ses pieds, mais est-ce que ce sont des poulaines, ses chaussures médiévales? Ou est-ce que ce sont des pieds de bouc ?
L'ambivalence est reine dans cette exposition aux visions tantôt cauchemardesques, tantôt enchanteresses. Des visions masculines que l'exposition met en contrepoint avec une vingtaine d'œuvres d'artistes femmes d'aujourd'hui. Dans sa série Innocente, Dalia d'Aleas Bouzard, d'origine algérienne, montre des sorcières noires, nues, libérées. Sans oublier que le sous-titre « Fantasme, savoir, liberté » de l'exposition rend aussi un hommage discret au mouvement iranien « Femmes, vie, liberté ». liberté. Un rappel que la chasse aux sorcières n'est pas totalement éradiquée dans ce monde.
Reportage culture signé Carmen Lunsman pour refermer cette demi-heure d'actualité. Un grand merci à Ryan Bois à la réalisation ce matin, Vincent Dublonge et Jeanne Bartoli à la rédaction en chef. Merci à vous surtout de votre fidélité à la Radio du Monde. Vous restez bien avec nous. L'actualité africaine revient dans tout juste 30 minutes. Ce sera avec Xavier Besson. On reviendra sur cette conférence de presse du président burundais hier après l'annonce du résultat des législatives remportées largement par le pouvoir mais critiquées par l'opposition. Et Human Rights Watch sera dans 30 minutes. D'ici là, dans 30 secondes, le retour de l'actualité internationale.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Le 18 juillet 1976, une jeune Roumaine de 14 ans obtient un 10 sur 10 à l'épreuve olympique des barres asymétriques par équipe. En pleine guerre froide, la performance de la Fée de Montréal devient un enjeu politique. Avec un dessin aux faux airs de manga, Clem et Marjolaine Solaro nous racontent l'incroyable destin de Nadia Comaneci.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41 sur RFI.